Daniel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28. Merci beaucoup la Sono. Si vous me faites un son comme ça tous les dimanches, je vais ressusciter les morts. Alléluia. Amen. Et ça, c'est le fruit du travail. Amen. C'est le fruit du boulot. Il faut travailler. Il faut bosser. Actuellement, on est en train de mettre les pressions dans tous les départements pour bosser dur. Amen. De telle sorte que nous puissions offrir à Dieu le meilleur. Le meilleur. À chaque fois que tu sers Dieu, dis-toi, est-ce que je lui ai donné le meilleur de moi-même en fait? À chaque fois que vous servez le Seigneur, dites-vous ça en fait. Est-ce que j'ai donné à Dieu le meilleur de moi? Si la réponse n'est pas oui en fait, la prochaine fois, faites tout un effort pour donner le meilleur de vous-même à Dieu. Amen. Et pour ça, il faut beaucoup d'exercice, il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup de concentration. Parce que Dieu recherche l'excellence. Dieu est un Dieu excellent. Regardez comment il a créé l'univers avec rectitude. Tout est calculé. Lorsque la NASA envoie une fusée, tout est calculé. Parce que la moindre erreur peut faire capoter en fait le lancement de la fusée. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'univers avec des lois bien précises. Et lorsque nous exerçons, en fait, nous devons aussi exercer avec rectitude, avec excellence. Lorsque vous faites quelque chose, posez-vous la question, est-ce que c'est le meilleur que je peux donner à Dieu? Lorsque tu chantes, chante le plus juste possible. Lorsque tu mixes, mixe le meilleur possible. Quelqu'un me comprend ici? Vous savez, moi j'ai refusé la médiocrité depuis un moment. J'ai refusé la médiocrité. Si vous voulez rester encore dans la médiocrité, ça c'est votre problème. Mais moi j'ai refusé ça et je dis la médiocrité vous rendra pauvre. Certains d'entre vous, vous êtes pauvres parce que vous êtes médiocres. Vous assimilez la médiocrité à l'humilité. C'est deux choses différentes. Jésus était humble mais il était excellent. Quelqu'un me comprend ici? Et parfois lorsqu'on vous pousse pour que vous soyez excellent, on ne veut pas vous terroriser. On ne veut pas vous tyranniser. C'est parce qu'au-dedans de vous, Dieu a mis l'excellence. Il vous suffit d'aller puiser dedans. C'est tout. Quelqu'un me comprend ici? Dieu vous a créé de façon excellente. La Bible dit que lorsqu'il a fait toute chose, il vit que cela a été bon. Est-ce que vous comprenez? Mais pour sortir l'excellence qu'il y a au-dedans de toi, il te faut t'exercer. Et si tu ne t'exerces pas assez, tu ne pourras pas sortir ce que Dieu a mis au-dedans de toi. Ce n'est pas possible. Vous devez tous vous exercer, tous. Tous les départements ici, vous devez tous vous exercer pour que le dimanche, ce soit festif, pour que le dimanche soit un beau jour. Pour que, comment je vais vous dire ça? Pour que le dimanche, en fait, quand vous sortez d'ici, vous-même, vous êtes content. Amen. L'accueil, tout doit être carré, bien fait. La louange, tout doit être bien, les musiciens, des bons accords, des accords divins. Créez-moi même des accords qui n'existent pas, allez toucher des accords de Dieu. C'est vrai là, qui n'existe pas sur la terre, mais qui existe au ciel. Vous êtes avec moi? La solo, pareil. Et quand je dis quelque chose publiquement, c'est pour la rendre solennel en fait. J'ai dit, Cédric, je t'ai dit, et il faut que tes membres écoutent. Tous les vendredis, les membres de la Sono, vous devez être là. Quand il y a les répétitions le samedi, vous devez être là. Cédric, un membre de la Sono qui sèche deux vendredis sans raison valable, il est viré. On l'envoie chez les enfants. Direct. Allez découvrir ce merveilleux ministère.
Vous allez rester là.
Non, c'est vraiment un ministère. Parce que plusieurs d'entre vous ici, vous ne voulez pas aller chez les enfants. On va vous envoyer là-bas. Vous allez découvrir. Parce que si vous n'êtes pas bon quelque part, vous allez être bon ailleurs. Si chez les enfants là-bas aussi, vous êtes nul, on vous envoie un peu à l'accueil. Si à l'accueil, vous êtes nul, on va dire bon, toi, on ne sait pas là où on va te mettre. Hein. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, c'est important. Il y a des choses que je ne dois pas dire et redire. Il faut qu'on marche dans l'excellence. Amen. On marche dans l'excellence. Il y a tout simplement une nullité et une médiocrité avec laquelle je ne m'identifie pas. Et je me désolidarise de cette médiocrité-là. Est-ce que vous comprenez? Parce que je ne suis pas comme ça. Et Dieu n'est pas comme ça. Si vous allez au travail et que vous faites votre boulot de façon médiocre, ne vous étonnez pas que le patron ne vous fasse pas la promotion, même si c'est le ménage. Ce que les autres ne font pas, lorsqu'ils font le ménage, toi fais-le. Fais un peu plus que les autres. Et Dieu ouvrira les yeux de ton patron, il verra que tu fais plus que les autres. Et c'est comme ça que la promotion vient en fait. Regardez l'histoire de Daniel. Lorsqu'on vous prêche, on vous parle de l'excellence. On vous parle de l'excellence dans tous les domaines. Chez vous, vous êtes excellent. Quelqu'un me suit ici. Quand vous faites la cuisine avec excellence. Quelqu'un me comprend ici. Un plat, il doit être bon et beau. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Un plat, il doit être bon et beau. Si le plat est bon, c'est toi qui l'as goûté. Moi, mes yeux me disent c'est pas bon. Je ne veux pas goûter ce que mes yeux disent. C'est pas bon. Même si toi, tu l'as goûté. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Il y a des plats, en fait, quand vous les goûtez à la maison, ils sont bons. Mais lorsque tu l'amènes devant les gens, la personne regarde la bouille du plat, elle dit, moi, je ne veux pas goûter. C'est dommage. Mais le truc, c'est quoi? C'est que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. C'est Dieu qui regarde au cœur, en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne va pas arriver pour vous plaire d'abord au niveau des yeux. Ça doit attirer le regard. Vous devez le décorer, vous devez bien faire les choses. Quelqu'un me suit ici. L'excellence dans tous les domaines de votre vie. Tous les domaines. Je vous ai déjà dit que Jésus savait cuisiner. Jésus savait cuisiner. Je vous l'ai déjà dit en fait. Et je vais vous donner un conseil.
Je vous donne vraiment un conseil. La nourriture est quelque chose de très important pour l'être humain.
Donc ne dites pas que je déteste cuisiner. S'il vous plaît, ne dites plus ça. S'il vous plaît. Parce que quand vous confessez ça, votre cerveau enregistre en fait et vous ne pourrez pas produire une cuisine excellente parce que votre cerveau est déjà bloqué. Est-ce que vous comprenez? C'est extrêmement important pour un être humain, un homme ou une femme, de savoir cuisiner. Si à partir d'aujourd'hui, vous ne savez pas cuisiner, vous pouvez apprendre à cuisiner. C'est important. Est-ce que vous suivez? Ne dites pas, ma femme va faire. Tu peux faire aussi. Jésus sur la terre, c'était un homme. Il savait cuisiner. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est de ça dont je suis en train de vous parler. Quand je vous parle d'excellence, je ne vous parle pas que de la musique, des boutons, de l'accueil, de machin. L'excellence, vous savez, l'excellence est une mentalité. C'est un esprit, en fait. Quelqu'un qui est excellent, en fait, on le sait, en fait. Tout ce qu'il touche, il le fait avec rectitude et excellence. Mais quelqu'un qui est médiocre, quand il touche ça, se voit que la personne est médiocre, en fait. Mais devenir excellent, c'est une décision. Devenir excellent, c'est un travail de tous les jours. Vous faites et vous refaites, vous faites et vous refaites, vous faites et vous refaites, vous comprenez? Si vous ne cuisinez pas tout le temps, vous ne pourrez pas faire des meilleures recettes. Vous testez les recettes. Vous testez. Après un jour, ça va venir. Au début, vous ne savez pas doser le sel. Mais après, vous apprenez en fait à doser le sel. Au début, vous ne savez pas doser les épices, les choses comme ça. Mais après, vous apprenez. Quelqu'un me voit ici? C'est extrêmement important ce que je suis en train de vous dire là. Donc ne dites pas, je ne suis pas venu au culte pour entendre ça, mais tu es venu pour ça. Amen. Je vous parle des choses que moi je fais. Je sais cuisiner. Je sais le faire. Je sais cuisiner. Et je l'ai appris comment? Je l'ai appris tout simplement chez mon père, chez ma mère en fait. Mon père cuisinait, ma mère cuisinait. Vous comprenez?
À l'âge de 13 ans, je savais déjà faire du riz, en fait, correctement. À l'âge de 15-14 ans, je savais déjà faire du poulet. À l'âge de 17-18 ans, je savais déjà faire les plats compliqués. Feu de manioc, machin, toutes ces choses-là, en fait. Et quand je suis venu ici, j'ai appris à faire un tout petit peu des choses, les plats normaux, les plats français, là, en fait, un tout petit peu. Je suis en train, j'apprends à faire ça, en fait. Est-ce que vous suivez? C'est important. Ma nièce, c'est bon, tu cuisines déjà. Tu cuisines quoi, oui? Tu cuisines déjà un peu. Le riz. Le riz, et puis quoi encore? Seulement le riz. Le riz et seulement le riz. Faut vous y mettre, amen. Daphné, est-ce que tu sais cuisiner? Tu sais cuisiner? Ok, c'est très bien. Faut que je goûte. Et j'entends les gens dire, il ne faut pas qu'ils me désirent, il faut pas qu'ils me désirent, il ne faut pas qu'ils me désirent. Parce que j'ai pas envie de mentir, il ne faut pas qu'ils me désirent. Ézéchiel chapitre 28, du verset 12 au verset 15. Ézéchiel chapitre 28, du verset 12 au verset 15. On va lire. C'est affiché? Affichez-moi ça, s'il vous plaît. Ézéchiel, verset 28, du chapitre 12. Verset 28, chapitre 28, verset 12, ouais, c'est ça. Parce qu'on a prêché quoi ce matin? Ah, moi, je suis allé le matin, il a dit qu'il faut savoir cuisiner. Fils de l'homme. Prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui annonceras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Tu représentais la perfection. Ah, je ne passe pas cette version. Une version. Oui, en fait. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Donnez le micro à quelqu'un d'aussi malade, s'il vous plaît. Le deuxième micro est où? Faites rapidement. Rapidement, il est où le deuxième micro? Le micro des chances. Pasteur Yvon, je préfère que tu lises. Ok.
Okay.
Très bien. On y va.
Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Mm-hmm. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Mm-hmm. Tu mettais le sceau à la perfection. Mm-hmm. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté.
Mm-hmm. Continue.
Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Okay. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses,
oui.
De sardone, de topaz, de diamant, mm-hmm. De chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Mm-hmm. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, mm-hmm. Préparés pour le jour où tu fus créé.
Mm-hmm. Continue.
Je t'avais choisi comme chez nous, c'est bon quoi? Non.
Verset
14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées.
Okay.
Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Mm-hmm. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Mm-hmm. Tu as été intégré dans des voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi.
Il y a une version qui dit jusqu'à ce que l'iniquité fut trouvée en toi. Ce passage biblique, en fait, nous parle de la chute d'Adam, la chute de Satan, Lucifer. Satan, que vous connaissez par Satan ou diable aujourd'hui, ne s'appelait pas diable, Satan s'appelait Lucifer, qui signifie ange de lumière. Et ce passage biblique est un faisceau d'indices sur ce que le diable faisait avant, en fait. Bon, la Bible nous montre, Eric, viens vers moi, viens, voilà, c'est bon, reste là, non, reste là, reste avec moi. Hein, suis-moi, hein, c'est bon. J'étais déjà reparti chez toi. Dis à celui qui est à ta gauche, attends là devant toi, suis la prédication. Il avait déjà voyagé. Donc ce passage biblique nous parle de Satan, le diable, Lucifer. Et en tant que chrétien, vous devez connaître l'origine du diable en fait, et des démons. Le diable n'a pas toujours été diable. C'était d'abord un ange en fait, c'était un chérubin protecteur, la Bible nous dit. Et apparemment, lorsqu'on voit ce texte, ce n'était pas n'importe quel ange, en fait. Apparemment, c'était un ange d'un rang très élevé. Et la Bible nous dit qu'il mettait le son à la perfection, en fait. Dans le passage biblique que nous voyons, la Bible dit qu'il mettait le son à la perfection. Donc, un autre indice, c'est que c'était un ange d'une très grande beauté. Et dans Ésaïe, ou dans ce passage biblique, on nous parle de ces tambourins, en fait, et de ces luttes, qui sont des instruments de musique. Un autre faisceau d'indice, c'était un ange qui avait un rapport avec la musique ou la louange, en fait. Amen. Maintenant, il y a un autre indice qui est donné. La Bible dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Amen. Ce passage emmène certains théologiens à dire que le diable, en fait, n'habitait pas le ciel, en fait, en réalité. Qu'il était, en fait, sur la terre. Je vais vous expliquer. Certains disent, en fait, que entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2, il y a des millions d'années qui se sont écoulées. Donc, entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2, il y a des choses qui se sont passées entre les deux versets bibliques. Genèse 1.1 dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1.2 nous dit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres sur toute la surface des eaux et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Lorsqu'on va dans l'hébreu, en fait, on se rend compte que quand la Bible dit que la terre était informe et vide, le mot hébreu, en fait, c'est le même mot qui a donné tohu bohu. Il y avait comme un chaos, en fait. Comme si quelque chose s'était passé, en fait, qui avait amené la destruction de cette chose, en fait. Vous devez comprendre que en Genèse 1-2, Dieu ne recrée pas, en fait, toute la terre, en fait. Il y a des éléments qui sont déjà là, en fait. La Bible nous dit qu'il y a des ténèbres et il y a de l'eau, en fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui existe. Et la Bible dit qu'elle était informe et vide. Elle était chaotique. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Est-ce que vous comprenez? Quand on voit le verset d'Ézéchiel, qui dit « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu », certains théologiens disent qu'il y a eu d'abord une première création de la terre. La terre a été créée, elle était une planète qui était très belle. Et il y avait un très beau jardin qui ressemblait au jardin d'Éden. Et le diable gouvernait, en fait, dans ce jardin-là, en fait. Est-ce que vous suivez? Il était là, il avait bien sûr accès au ciel. Là n'était pas le problème, en fait. On peut comprendre que Dieu était peut-être en train de préparer la venue de l'homme, en fait, en créant d'abord ce premier jardin. Est-ce que vous suivez? En créant le premier jardin. Et lorsqu'on voit le passage des évangiles où Jésus décrit la chute de Satan du ciel, la Bible dit, « Et je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Qui dit éclair, dit lumière. Qui dit lumière, dit feu. Qui dit feu, dit explosion. Il y a donc eu comme une explosion. Parce que dans Ésaïe, en fait, la Bible nous dit que le diable a cherché à monter. Toujours le verset biblique d'Ésaïe, où Satan dit, je monterai au-dessus des nuées, des choses comme ça. On va lire ce passage biblique que vous allez bien comprendre. C'est important que vous maîtrisiez l'origine du diable, en fait. Amen. Et vous allez comprendre ce qui s'est passé avec l'homme au jardin d'Éden. Ésaïe, combien? Les théologiens, là, les ziménistes. Hein? Allez-y, trouvez-moi ça vite. Ésaïe 14. Hein? 14. Hein? Allez, vous donnez le micro, pasteur, ils vont tu lis. Et on verra beaucoup de faisceaux d'indices encore. Vas-y. Voilà.
Ésaïe chapitre 14. Mm-hmm. Je te lis à partir du verset 12.
Oui.
Quoi donc, tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore.
Très bien.
Tu es abattu à terre, toi le dompteur des nations. Tu disais en ton cœur.
Très bien. Regardez.
Je monterai au ciel.
Attends, quoi donc, tu es, reprends.
Alors, tu disais en ton cœur.
Non, reprends.
Quoi donc, tu es tombé du ciel.
Tu es tombé du ciel. Ça ne passe pas ce que Jésus a dit. Amen. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Vous suivez? Regardez, continue.
Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Mm-hmm. Tu es abattu à terre.
Tu es abattu à terre. On nous explique là où il est allé, là où il allait frapper quand il est tombé, en fait. Est-ce que vous suivez? À terre, en fait. Continue.
Toi, le dompteur des nations.
Oui.
Tu disais en ton cœur.
Tu disais en ton cœur.
Je monterai au ciel.
Je monterai au ciel. Mais il était où avant? En Éden. C'est Ézéchiel qui nous dit. Il dit, je monterai au ciel. Continue.
Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu.
C'est-à-dire que j'élèverai mon trône au-dessus de Dieu. Ça veut dire que je me mettrai dans une position plus élevée que celle de Dieu. Je supplanterai Dieu. Je renverserai son trône, je ferai un coup d'état universel.
Vous suivez? Continue.
J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de la rencontre des dieux au plus profond du nord. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au très haut.
Je serai semblable au très haut. Est-ce que vous voyez un peu ce faisceau d'indices? Donc nous voyons que le diable avait certainement son univers sur la terre, en fait, que Dieu lui avait donné, hein, vous suivez? Il était un ange avec des anges ici qu'il dirigeait. Et il avait un lien avec la musique. Et c'était un ange d'une très grande beauté, d'après ce faisceau d'indices que nous voyons dans la parole de Dieu. Le gars a décidé de monter en fait au ciel pour renverser le trône de Dieu. Est-ce que vous suivez? Et prendre la position de Dieu. Mais la Bible nous dit que Dieu ne va pas permettre cela en fait. Et certains d'entre vous, vous pensez que c'est Dieu qui a combattu en fait. Dieu n'a pas combattu, il n'a même pas bougé un seul instant de son trône. C'est Michael. Amen. C'est l'ange Michael en fait, l'archange Michael qui a combattu en fait le diable et les démons qu'il a pervertis en fait. Parce que le diable a entraîné une partie des anges, en fait. Est-ce que vous suivez? Et cette partie des anges-là qui ont suivi Satan sont appelés aujourd'hui des démons, en fait. Mais en fait, c'était des anges. C'était des gens qui avaient aussi des noms, en fait. Est-ce que vous suivez? Ils ne s'appelaient pas démons. Ils avaient des noms angéliques, en fait. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes toujours avec moi. Vous êtes toujours avec moi. Si vous êtes avec moi, faites comme ceci. Hein? Mais la Bible va nous dire quoi? La Bible va nous dire dans Apocalypse, en fait, que le diable a détourné le un tiers des anges de Dieu. Est-ce que vous suivez? Un tiers des anges de Dieu. Écoutez, lorsqu'on vous dit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux, bien aimé, c'est par la foi, mais c'est aussi mathématique. Est-ce que vous comprenez? Parce que si le diable n'a fait que détourner le un tiers, ça veut dire qu'il reste deux tiers. Ça veut dire que ceux qui sont avec nous sont bel et bien mathématiquement plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et je vais même encore aller un peu plus loin. Parce que parmi les un tiers que le diable a détourné, il y a certains qui n'opèrent pas sur la terre. Il y a certains qui opèrent dans les lieux célestes. Ce sont des esprits très méchants que Dieu n'a pas autorisé d'entrer en fait sur la terre. Parce que ces gars-là sont extrêmement dangereux. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous comprenez? Il y a une partie qui est dans les lieux célestes, mais il y a une autre partie en fait qui est retenue dans un lieu qu'on appelle le Tartaros. Est-ce que vous comprenez? Le Tartaros, vous devez comprendre que l'abîme est divisé en plusieurs parties en fait. L'abîme. Et on a l'impression que l'abîme c'est sous terre en fait, d'après toutes les explications que la Bible nous donne. Dans l'abîme, sous terre, il y a d'un côté le séjour des morts, et dans le séjour des morts, il y a le sein d'Abraham, là où tous les saints qui naissent, qui, bon, pas qui naissaient de nouveau, les saints en fait qui suivaient Dieu, Jéhovah, en fait allaient dans le sein d'Abraham. C'était une prison des esprits, comme un lieu de repos. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le séjour des morts. Il y a le sein d'Abraham, mais il y avait de l'autre côté l'enfer. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, aujourd'hui, le sein d'Abraham est vide, en fait. Amen. Vous comprenez? Il est vide. Il n'y a plus personne là, en fait. Ils ont déménagé. Ils sont tous montés au paradis, en fait. Et c'est Jésus, en fait, qui l'a fait. Il est descendu au sein d'Abraham, en fait. Il a libéré tous les esprits qui étaient au sein d'Abraham et il est monté avec eux au ciel. Mais en même temps, comme du sein d'Abraham, vous avez la possibilité d'apercevoir l'enfer. C'est l'histoire du riche, hein, et de Lazare qui nous montre en fait qu'on peut se voir. Il y a des endroits en fait dans le sein d'Abraham et dans l'enfer où vous pouvez voir et vous pouvez même parler. C'est ce que l'histoire du riche et du pauvre nous montre en fait. Est-ce que vous suivez? Donc Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Du sein d'Abraham, il a prêché aux gens qui étaient en enfer. Il n'a pas prêché l'évangile comme les prédicateurs vous disent. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que le mot prêcher ici signifie dire une condamnation. Il ne s'agit pas du fait de prêcher pour laisser une option à quelqu'un, comme quand on prêche l'évangile. Il s'agit de déclarer une condamnation, en fait. Il a déclaré à ceux qui étaient en enfer que c'est fini, en fait. Que c'est condamné, c'est fini. Est-ce que vous suivez? Donc maintenant, dans l'abîme, il y a aussi un autre endroit qu'on appelle le Tartaros. Là-bas est retenu, en fait, des esprits mauvais, des démons, en fait. Est-ce que vous suivez? Donc, lorsque vous faites, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair? L'abîme, en bas de l'abîme, il y a le séjour de ceux qui sont morts. Dans le séjour de ceux qui sont morts, il y a l'enfer et il y a le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham est vide, en fait, parce qu'aujourd'hui, ils sont tous au paradis et les chrétiens qui meurent ne vont plus dans le sein d'Abraham, ils vont au paradis. Vous suivez? Ça, c'est Jésus qui l'a fait. Mais l'enfer existe toujours. Ceux qui meurent sans Christ vont en enfer. Et un peu loin, il y a ce qu'on appelle le Tartaros, là où les esprits méchants sont retenus. Vous comprenez? C'est pour ça que vous entendez certains prédicateurs dire, au nom de Jésus, je te chasse et je t'envoie dans l'abîme. Mais ce n'est pas scripturel. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas envoyer des démons dans l'abîme, en fait. Sinon, le nombre de démons que vous avez déjà envoyés dans l'abîme, parce que ceux qui sont dans l'abîme, ils ne peuvent plus sortir, en fait. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Allez, faire l'hiver. Bon. OK. Pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça en fait, déjà pour vous faire comprendre que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont dans le monde, ceux qui sont avec le diable. Donc n'ayez pas peur. Dieu est capable à vous seul de vous donner un ange devant, un ange derrière, un ange à côté, un ange à droite. Quelqu'un me suit ici? Vous pouvez, sans crainte, travailler avec une légion d'anges en fait, sans que mathématiquement, il y ait des démons qui puissent être capables de contrecarrer les gens en nombre. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que dans Genèse 2, qu'on va lire maintenant, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Genèse 2. Mais avant que Yvon le lise, c'est juste pour annoncer le verset biblique. Je vous ai dit que la terre était informe et vide. Il y a eu comme un chaos, n'est-ce pas? Et lorsque la Bible dit, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Certains théologiens sont convaincus que entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2, ces moments-là, cette période-là, c'est là où sont nés les dinosaures, en fait. C'est là où sont nés, en fait, ce que les gens appellent, comment on appelle ça, l'homme de je ne sais trop quoi, en fait. Mais bibliquement parlant, ce ne sont pas des hommes, en fait. Est-ce que vous suivez? Bibliquement parlant, c'est des animaux, en fait. On ne peut pas dire que c'était des hommes, bibliquement parlant. Vous suivez? Parce que lorsque vous prenez cette preuve que les scientifiques, en fait, nous montrent, quand on va dater, c'est bien des êtres qui ont existé des millions d'années. Comment vous allez refuter ça, en fait, scientifiquement? Certains théologiens vont dire que ça s'est passé entre Genèse 1.2 et Genèse 2.2, en fait. Est-ce que vous suivez? Donc, il y avait certainement des créatures qu'on appelle les créatures pré-adamiques. Quand le Dieu va être propulsé sur la terre, il y aura un chaos. C'est comme un feu, en fait, vous suivez, qui va consumer la terre et après la terre va se refroidir. Est-ce que vous suivez? Quand elle va se refroidir, l'Esprit de Dieu, pour reconstruire la terre, la Bible dit que l'Esprit va planer, en fait. Et le mot hébreu signifie planer pour couver. Couver pour dégager de la chaleur. Donc l'Esprit de Dieu va commencer à recréer de la chaleur pour une atmosphère favorable à la vie, en fait. Amen. Avant que Dieu ne puisse déclarer. Vous comprenez? Quand vous arrivez à comprendre ça, vous arrivez à accorder la Bible avec les découvertes scientifiques. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Ok. Mais les histoires de l'homme vient du singe, hein, ça c'est pas bon. Hein. Ça c'est pas bon du tout parce que génétiquement, tous les généticiens, les bons généticiens, vont vous dire que génétiquement c'est pas possible en fait. Donc ne vous embêtez pas avec ça en fait. Bon, ils ne peuvent plus changer ça parce que c'est déjà dans les écoles partout. Et puis bon, c'est la fondation de certaines. Comment je peux dire ça? C'est la fondation de certaines. Théories, sectes, je ne sais trop quoi. Est-ce que vous suivez? Vous êtes avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Parfait. Donc Dieu va créer donc la terre. Gloire à Dieu. Hein? Il va reformer les choses. Un autre argument qui démontre la théorie des créatures pré-adamiques. C'est la bénédiction que Dieu va prononcer sur Adam. Il va dire, remplissez et assujettissez la terre. Et le mot qu'il va utiliser, c'est bien le mot remplir. Et remplir signifie emplir de nouveau. Est-ce que vous comprenez? Remplir signifie emplir de nouveau. S'il n'y avait pas des créatures avant, il aurait dit emplissez la terre. Vous suivez? Mais quand il dit ré-emplissez, vous suivez? C'est-à-dire faites, donnez de nouveau, créez de nouveau, créez entre guillemets, emplissez de nouveau. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est clair ou c'est trop dur? Ça va, il va. C'est Dieu. Ok. Genèse chapitre 2. Verset 1.
Genèse chapitre 2. Ainsi furent achevés le ciel, la terre et toute leur armée. Mm-hmm. Le septième jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée et il se reposa au septième jour de l'œuvre qu'il avait faite.
D'accord.
Dieu bénit le septième jour et le sanctifia. Quand en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée.
Ok.
Voici les origines du ciel et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel.
Genèse chapitre 2.
Continue.
Ok. Va au Idéquel, tout ça, c'est très bien. Bien avant, il y a la bénédiction d'abord. Continue. Vas-y.
Alors, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il y avait encore. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste de la campagne sur la terre et aucune herbe de la campagne ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre.
Continue,
et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol.
Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Continue.
Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol.
Très bien.
L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol.
Okay.
Il insuffla dans ses narines un souffle vital.
Très bien.
Et l'homme devint un être vivant.
Oh, la différence entre l'homme, le premier Adam et le dernier Adam, c'est quoi? C'est que le premier Adam est un être vivant, alors que le deuxième Adam est un esprit vivifiant. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez la différence? Vous suivez? L'esprit que vous avez reçu a la possibilité de donner la vie, alors que l'esprit que vous aviez avant était tout simplement vivant. Continue. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez la différence entre l'homme animal, c'est-à-dire le païen et vous en fait? Vous suivez? Ce que vous avez, vous pouvez le transférer. Eux, ils ne peuvent pas. Ils sont tout simplement vivants, mais ils ne peuvent pas le transférer. Est-ce que vous comprenez? Continue.
L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, il insuffla dans ses narines un souffle vital, et l'homme devient un être vivant.
Très bien.
Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient.
Très bien.
Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin.
Très bien.
Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Donc l'arbre de la vie était au milieu du jardin. Ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était au milieu du jardin. Donc c'était deux arbres côte à côte. Continue.
Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin.
Très bien.
Et de là, il se divisait en quatre bras.
Ok, arrête-moi là. Quand vous voyez les fleuves, en fait, en géographie, ça va déterminer la localisation, la situation de l'endroit qu'on est en train de décrire, en fait. Est-ce que vous suivez? C'est à travers ces fleuves-là qu'il va citer, qu'on va à peu près déterminer là où le jardin d'Éden se trouvait. Continue. Il y avait un fleuve.
Un fleuve sortait des nombres. Le nom du premier est Pichon.
Très bien, vous connaissez.
C'est celui qui contourne le pays d'Avila.
Voilà, celui qui contourne le pays d'Avila. Il décrit même. Continue.
D'excellente qualité, ainsi que le bélium et pierre et la pierre d'onyx.
Ok, va au deuxième.
Le nom du second fleuve est Guillon.
Très bien, il fait quoi?
C'est celui qui contourne tout le pays de Couche.
Très bien, le pays de Couche, c'est là où il y avait les Noirs, c'est vers l'Éthiopie. Est-ce que vous voyez? Continue.
Le nom du troisième feu est Idékel.
Idékel?
C'est celui qui coule à l'orient de l'Asie.
Idékel, c'est aussi le tigre. Est-ce qu'il existe toujours ce fleuve? Le tigre. Voilà, c'est ça en fait. Idékel, c'est aussi le tigre. C'est le même fleuve en fait. Est-ce que vous vous rendez compte? Il existe encore aujourd'hui. Continue.
Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate.
Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui? Donc, à travers ces fleuves, vous voyez un peu là où le jardin d'Éden se trouvait. Est-ce que vous comprenez? Et on comprend que le jardin d'Éden prenait une partie de l'Irak, une partie de l'Éthiopie. Toute cette zone-là, en fait, c'était là où le jardin d'Éden se trouvait. Alléluia. Amen. Et c'est là où ma prédication va commencer. Parce que vous savez, le jardin d'Éden va préfigurer l'environnement dans lequel Dieu aimerait que vous puissiez vivre. L'environnement dans lequel Dieu aimerait que nous puissions vivre. Le jardin d'Éden va préfigurer la destinée, votre destinée. Est-ce que vous êtes avec moi? Votre vie. Parce que la vie qu'il y avait au jardin d'Éden était une vie idyllique, était une vie joyeuse. C'était une vie de bonheur. C'était comme un paradis sur terre, en fait. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, la volonté de Dieu est que vous puissiez vivre à travers votre destinée un paradis sur terre. Oui, au jardin d'Éden, il n'y avait pas de maladie. Dieu ne veut pas que vous soyez malade. Oui, au jardin d'Éden, il n'y avait pas d'huissier qui vienne t'envoyer des lettres de « Non, tu me dois, tu me dois, tu me dois. » Et Dieu veut que dans ta destinée, tu ne puisses devoir rien à personne. Amen. Le jardin d'Éden, ce n'était pas un endroit de stress, en fait. C'était un endroit bien. Est-ce que vous comprenez? Donc, le jardin d'Éden, il faut retenir, ça va préfigurer votre destinée, la destinée. jardin d'Éden. Nous avons tout à l'heure délimité là où était le jardin d'Éden. Pourquoi Dieu a fait cela? Pourquoi Dieu n'a tout simplement pas créé toute la terre comme le jardin d'Éden en fait? Il a créé une partie, il a mis un jardin, il a planté et il a mis l'homme dans ce jardin-là. Pourquoi? Parce que le reste de la terre devait être un jardin d'Éden, mais ce n'est pas Dieu qui devait le faire, c'est l'homme qui devait le faire. Non, je ne sais pas si vous me suivez, je ne sais pas si vous comprenez, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Suivez attentivement en fait, parce que vous savez, Dieu va vous donner une destinée et un rêve en fait. Est-ce que vous comprenez? Et quelque part, vous avez un jardin d'Éden. Regardez, Dieu va créer quelque chose qui va être un modèle à l'homme, en fait. Lorsque les entrepreneurs vont construire un immeuble avec des appartements ou bien un lotissement, en fait, ils vont construire ce qu'on appelle une maison témoin. Est-ce que vous comprenez? Et le jardin d'Éden était comme la maison témoin pour le lotissement terrestre, en fait, que Adam et Ève devaient créer, en fait. Dieu va créer le jardin d'Éden et il va donner le mandat à Adam et Ève. Parce que quand Dieu va parler à Adam et Ève, il va dire remplissez et assujettissez quoi? Le jardin d'Éden? Non. Il dit remplissez et assujettissez la terre. Si Dieu voulait qu'Adam et Ève se limitent au jardin d'Éden, il aurait dit remplissez et assujettissez le jardin d'Éden en fait. Ok, mais s'il a créé cette partie-là belle, bien cultivée, qui fera le reste en fait? Je ne vais pas remplir un endroit qui n'est pas cultivé, un endroit qui est brut. Parce que le reste de la terre était brut en fait. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de vous dire? Et dans votre destinée en fait, Dieu va créer des éléments. Dieu va vous donner un jardin d'Éden en fait. Et ce jardin d'Éden, c'est à vous de le cultiver en fait. Est-ce que vous suivez? Et de l'étendre dans votre destinée. Est-ce que vous comprenez? Maintenant vous vous dites peut-être, mais ce jardin d'Éden là, je vais le voir où en fait? Ce jardin d'Éden, vous le voyez dans votre esprit. Parce que votre jardin d'Éden, c'est la vision de Dieu pour votre vie, en fait. C'est pourquoi si vous n'avez pas une vision, en fait, vous ne pourrez pas voir votre jardin d'Éden que vous pouvez étendre, en fait, sur la terre, en fait. C'est pour ça que la Bible va dire un peuple sans vision est un peuple sans frein. Est-ce que quelqu'un comprend ici? Maintenant, dans ce jardin d'Éden, il y a un comportement que Dieu aimerait que vous puissiez avoir. Pour connaître le comportement que vous devez avoir, vous devez aller dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va décrire comment vous devez cultiver ce jardin-là. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Regardez, quand on vous dit que vous devez avoir une vision, parce que Dieu vous envoie sur la terre, en fait, pour que vous puissiez installer le royaume et le règne de Dieu sur la terre, en fait. Là où vous êtes, le royaume de Dieu doit avancer. Là où vous êtes, le royaume de Dieu, en fait, doit prendre de l'ampleur. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez, certaines choses, vous avez du mal à comprendre ce que je suis en train de vous dire, parce que la religion vous a enseigné pas mal de choses qui vous bloquent, en fait. Enlevez la religion. Enlevez ça, en fait, de votre tête. Est-ce que vous êtes avec moi? Ok, on continue. Vous allez voir. Donc, il vous communiquera la vision. Et c'est à vous de reproduire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette vision-là, elle existe bien quelque part dans le monde spirituel. Et il est de votre responsabilité d'amener cela dans le monde, du monde spirituel, dans le monde naturel. Ce n'est pas Dieu qui viendra faire ça à votre place. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez quand on parle de vision, ce que ça veut dire. La vision, c'est visualiser les buts, les objectifs de Dieu dans votre vie, en fait. La vision, c'est vous voir tel que Dieu aimerait que vous soyez dans le futur. La vision, c'est vous voir obtenir ce que Dieu veut que vous puissiez obtenir dans le futur, en fait. Et si vous n'arrivez pas à visualiser cela, vous ne pourrez pas le vivre. C'est pour ça qu'on appelle ça vision. Est-ce que vous comprenez? Vous devez d'abord visualiser ça. Beaucoup d'entre vous, vous échouez dans votre destinée parce que vous n'avez pas de vision. Certains d'entre vous, vous avez des paroles du Seigneur, mais vous n'avez pas visualisé ces paroles-là. Demandez, Abraham avait des paroles du Seigneur jusqu'à ce que Dieu l'amène et Dieu lui dit, lève les yeux et visualise. Yahweh. Certains d'entre vous, vous avez des paroles, vous avez des promesses, mais vous n'avez pas encore visualisé. Arrivez au stade où vous visualisez en fait. Parce que quand vous allez visualiser, les choses vont commencer à se faire en fait. Vous verrez même que votre façon de parler changera. Votre façon de marcher changera. Votre façon de faire les choses changera en fait. Parce qu'il y a un lien direct entre votre imagination et votre comportement physique. Mais je ne sais pas si sur les sections d'avenir. J'ai dit, certainement, que vous avez des paroles, hein, mais vous n'avez pas encore imaginé. Et il y a des blocages souvent. Pourquoi? Parce que certainement, que vous ne croyez pas que Dieu est capable de vous donner la vie qu'il vous demande d'imaginer. Vous ne croyez pas que Dieu est capable, en fait, de vous donner tout ce que vous voyez dans votre esprit. Là. C'est pour ça que vous avez du mal à entrer dans ce jardin d'Éden, en fait. Le problème, c'est que si vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas entrer, en fait. Il faut d'abord que vous le voyez. Et pour ça qu'il faut prier. Parce que pour que Dieu te donne des paroles qui vont devenir une vision, pour que Dieu te donne une vision, il faut que tu pries. Vous suivez? Si vous ne priez pas, vous n'aurez pas du tout la vision. Regardez ce que Dieu va dire à Moïse. Regardez. Dieu va dire à Moïse. Je vous donne la référence biblique pour que vous puissiez noter. Dans Exode 25, 40. Exode 25, 40. Dieu va dire à Moïse, lorsque Moïse va construire le tabernacle, il va préfigurer la présence de Dieu dans la vie du peuple d'Israël. Dieu va dire à Moïse, fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Moïse était sur la montagne. Vous comprenez? Et quand il descend en dehors de la montagne pour voir le peuple d'Israël, après qu'il construise le tabernacle, Dieu va lui redire, Dieu va lui dire, fais d'après le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Certains d'entre vous avez du mal à faire d'après le modèle parce que vous n'avez même pas vu ce modèle-là, en fait. Parce que vous n'êtes pas allé sur la montagne aller chercher ce modèle. Ça, c'est la première chose qu'on m'a apprise lorsque j'étais chrétien, en fait. On m'a dit, tu dois connaître le plan de Dieu pour ta vie. Tu dois connaître la vision de Dieu pour ta vie et tu dois la visualiser. Pourquoi? Parce que pour la concrétiser avec précision, il faudrait que tu vois ça. Même Jésus, hein, il a dit pareil. Il a dit, je ne fais rien sans avoir vu le Père faire, en fait. Le gars, je vous ai déjà dit, qu'il voyait en vision ce qu'il devait faire et il le faisait. Bien aimé, si vous n'arrivez pas à cette dimension-là, vous vivrez toujours au jour le jour. Vous ne comprenez pas pourquoi la vie chrétienne est une vie passionnante. Pourquoi je vous prêche avec autant de passion? Pourquoi je suis tellement heureux? Et pourquoi je fais tout ça? Parce que vous n'arrivez pas à visualiser. Faites la même moi. Faites la même moi, dit la même deux fois. Très bien. Ok. Donc tu dois faire d'après le modèle qui t'est monté sur la montagne. Regardez ce qui va se passer au jardin d'Éden. Donc je vous ai dit quoi? Vous retenez, hein? Que la vision de ton jardin d'Éden, tu la reçois sur la montagne. Ta vie, c'est toi qui la crée. Ta vie, c'est toi qui la dessine. Ta vie, c'est toi qui la fabrique. Alors, en tant que chrétien, arrête de dire, ah, Dieu a permis, en fait. Est-ce que vous suivez? Arrête d'être victime des événements, parce que c'est pas comme ça que Dieu a fait les choses. Tu es un acteur. Il y a des choses qui sont à ta disposition, alors opère. Si ta vie est malheureuse, elle est malheureuse à cause de toi-même, pas à cause de Dieu. Elle est malheureuse pas à cause des autres. Ce qui t'est arrivé, tu as permis que ça arrive, en fait. Mais si tu prends la décision de contrôler et de maîtriser ta vie, tu verras beaucoup plus de belles choses t'arriveront. Je te prends un exemple très simple. On t'avait parlé au sujet de ce garçon, on t'avait parlé au sujet de cette fille. On t'avait parlé au sujet de cette amie-là. Mais aujourd'hui, je te retrouve dans des difficultés pas possibles. Et c'est la faute de qui? C'est la faute de celui qui t'a présenté cette amie? Non. C'est de ta faute. Le principe de la responsabilité devant Dieu. Vous êtes toujours avec moi. Vous êtes toujours avec moi. Ok, très bien. Donc, Genèse 1, 27, verset 28. Yvon, tu vas lire. Genèse 1, verset 28.
Dieu créa l'homme à son image.
Parfait.
Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la.
En fait, Dieu vous a déjà béni. Vous n'avez pas besoin de recevoir encore une bénédiction quelque part de la part de Dieu. Il a dit, remplis la terre, assujettis-la et domine-la, en fait. Il te l'a donné et il ne reprendra pas, en fait, ce qu'il t'a donné. Est-ce que tu comprends? Et il a dit que ça se passe sur la terre. Continue, Yvon.
Dominer sur les poissons. poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre.
Dominer sur les poissons de la mer. Est-ce que vous comprenez maintenant le miracle de la pêche miraculeuse? Jésus savait qu'il avait autorité sur les poissons. Donc quand il est monté en fait dans la barque et il a dit à Pierre, on y va. Pierre a dit, mais attends, ça fait des heures que j'ai pêché toute ma nuit, je n'ai attrapé aucun poisson. Et j'imagine Jésus en train de dire, mais attends, tu n'es pas conscient de ton autorité sur les poissons? Comment est-ce que tu vas pêcher les poissons et tu ne commandes pas d'abord aux poissons de venir dans ton filet? Je comprends un peu. Est-ce que vous voyez un peu? Quand Jésus va opérer ce miracle, vous pensez qu'il l'a fait par hasard? Il savait qu'il y a des milliers d'années, Dieu a donné l'autorité à l'homme sur les poissons. Continue.
Dieu dit, voici que je vous donne toute terre porteuse de semences et qui est à la surface de la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rentre sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute terre verte pour nourriture.
Très bien, ok, ce passage biblique on l'a déjà vu. Tu vois, tu vas dans Genèse 2, chapitre 19. Quel était le travail d'Adam dans le jardin d'Éden? Quel était le boulot d'Adam? Dans le jardin d'Éden, Genèse chapitre 2, le verset 19, vous allez vous rendre compte.
L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait.
Oh mon Dieu, redis-moi ça.
Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait.
Est-ce que c'est Dieu qui a donné des noms aux animaux?
Non.
C'est Adam. Pourquoi Dieu a permis à Adam, en fait, de donner le nom aux animaux? Parce qu'il y a un lien entre le nom et la destinée de quelque chose ou de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Dieu va laisser le choix à Adam de fabriquer, vous comprenez, le comportement des animaux sur la terre, en fait. En fait, Dieu avait fait une partie du travail, mais le reste du travail, c'est Adam qui devait le faire, en fait. D'accord, monsieur, ici? Continue, mon frère. Continue.
L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs.
Regarde, arrête là. L'homme donna des noms. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis que certains d'entre vous, votre destinée ressemble au nom qu'on vous a donné. Je vous dis que c'est la signification de votre nom. C'est une mauvaise chose. Changez ce nom-là. C'est pourquoi quand Dieu a vu Simon, Simon signifie roseau. Vous comprenez, non? Celui qui est baloté à tout vent de doctrine, celui qui est versatile. Jésus a dit non, toi je vais d'abord changer ton nom. Tu ne t'appelles plus Simon, tu t'appelles maintenant Pierre. C'est lui qui est dur comme le roc. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu va parler avec Abraham, vous suivez? Il va dire non, tu ne vas plus t'appeler Abraham, tu vas t'appeler maintenant Abraham. Pourquoi? Parce que je vais te donner un nom qui est attaché à ta destinée. Père d'une multitude. Il appellera Sarah, en fait. Il a dit tu ne t'appelles plus Sarah, Sarah. Tu t'appelleras plus Sarah, tu t'appelleras Sarah, qui signifie mère d'une multitude. Est-ce que vous suivez? Le nom que vous donnez va déterminer en fait le comportement de cette chose-là. Est-ce que vous suivez cette chose de vous dire? Est-ce que vous comprenez? Regardez, vous allez mieux comprendre. Vous allez mieux comprendre. Dans votre jardin ici sur la terre, les animaux que Dieu permet de venir vers vous en fait, ce sont les mauvaises circonstances. Ce sont les mauvaises situations en fait. La façon dont tu qualifies une situation va déterminer la façon dont tu vas vaincre cette situation-là. Si le problème qui vient pour toi, c'est un problème, il deviendra un problème et il te posera des difficultés. Mais si quand ça vient pour toi, c'est un défi, ça veut dire que tu le vaincras. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Écoutez, c'est Dieu qui permet que vous puissiez vivre toute cette situation-là. Pourquoi? Pour que vous exerciez votre autorité dans votre jardin d'Éden. Pour que vous puissiez dominer. Mais la première chose, c'est la qualification des événements et des situations de votre vie, en fait. Est-ce que vous comprenez pourquoi on doit changer notre façon de parler? Parce que Adam, en fait, quand on faisait venir le serpent, il a dit, toi, tu t'appelleras serpent. On a fait venir le singe, toi, tu t'appelleras singe. Et le nom qu'il donnait déterminait le comportement de cet animal-là. Quelqu'un me suit ici? Le nom que tu donnes à une situation va déterminer le comportement de cette situation à ton égard. Si tu dis que cette situation est méchante, elle deviendra méchante. Est-ce que vous comprenez? Aïe, 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 aïe. Yeah. continue.
L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'air qui fût son vis-à-vis.
Très bien.
Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme.
Très bien. Repars quand Dieu dit à l'homme de donner les noms. Repars là.
L'Éternel, verset 19.
Oui.
L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les
appelait. Hé, arrête-toi. Il les fait venir auprès de l'homme. Ça, nous l'avons compris. Mais pourquoi? Continue.
Pour voir.
Pour voir. Non, redis encore.
Pour voir.
Pour voir.
Comment il les
appellerait. En fait, tu as fait venir les animaux, en fait. Et il s'est assis. Et il a dit, je vais voir, en fait.
Oui, oui.
Je vais déjà voir si mon intelligence en lui fonctionne correctement. Je vais voir si mon option en lui fonctionne correctement. Est-ce que vous comprenez? Et là, il a fait un test, en fait. Parce que vous ne pouvez pas fabriquer quelque chose sans la tester. Est-ce que vous comprenez? Il s'est assis et le singe est venu, il a dit, tu l'appelles singe. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est vraiment moi qui l'ai créé. Et aussi, c'est moi. Est-ce que vous le savez? La baleine est venue. Oh, il dit, baleine. Je dis, oh! Parce qu'en fait, Dieu s'est dit, oh mon Dieu, on est vraiment connecté. C'est comme ça que je le réapprends. C'est déjà bien, je suis heureux avec mes enfants, c'est déjà bien, mon jardin d'Éden, il est bien, oui, rejeter la terre entière. Pense seulement au jardin d'Éden. Tu comprends? Ça veut dire quoi? Dans la terre, quelque part, il y a un mari qui est malheureux. Alors, tu peux aller apporter une parole d'encouragement, en fait. Il y a des enfants qui sont malheureux. Tu peux apporter une parole d'encouragement. Est-ce que vous comprenez? Quelque part sur la terre, il y a des gens qui ont besoin de gagner 2500 euros. Dieu a décidé de te bénir pour que tu aies au-delà de 1500 euros pour que tu puisses les bénir eux aussi. Parce que tu dois étendre ton jardin de l'un aux autres. Tu ne dois pas t'asseoir seulement là. Est-ce que vous suivez? Tu dis non, j'ai déjà mon jardin de l'un, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Il y a certains qui disent, mais lui au moins il a son jardin de l'un. Moi je ne vois même pas son jardin de l'un. Mais quand Marie dit, tu vas voir. Amen. Le serpent. Le mot serpent n'avait pas la même signification qu'aujourd'hui. À l'époque, quand on disait serpent, c'était une belle créature. Mais aujourd'hui, quand on dit le serpent, tout le monde fouille en fait. Ça devient une créature nuisible à cause du péché d'Adam. Est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce qui a perverti le serpent? C'est le diable. Le diable est entré dans le serpent. Vous suivez? Il a perverti le serpent et le serpent est devenu une créature bizarre en fait. Écoutez-moi bien, tout ce que Dieu a créé en vous, vos talents, vous suivez, sont bons en fait. C'est le diable qui vient pervertir ces talents-là au-dedans de vous en fait. Est-ce que vous suivez? Quand vous regardez quelqu'un comme Céline Dion, il a un super talent. Vous pensez qu'il lui a donné ce talent-là? C'est le diable? Non, c'est Dieu. Mais le diable va pervertir. Vous regardez Michael Jackson, c'est bon, mais le diable va pervertir. Est-ce que vous suivez? Ne laissez pas le diable pervertir ce que vous avez en fait. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, si vous ne faites rien avec dans la maison de Dieu, le diable va trouver des solutions pour ça dans sa maison. Faites quelque chose. Attends, monsieur ici. Dis à celui qui est à ta gauche, fais quelque chose dans la maison de Dieu. Je vais terminer avec ceci. Ça, c'est pour embrayer pour la semaine prochaine. L'acte de la connaissance du bien et du mal. C'était au centre, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu a planté cet arbre, la connaissance du bien et du mal? C'était un arbre tout simplement qui a été contaminé par la nature de Dieu parce que c'était à cet endroit-là que Dieu venait rencontrer Adam et Ève en fait pour leur transmettre la connaissance. Et Dieu ne voulait pas l'instantané en fait. Vous suivez? Il voulait le processus. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il descendait tous les soirs. Vous pensez que quand il descendait tous les soirs, il venait faire quoi avec Adam et Ève? Il les instruisait. Il leur expliquait les choses en fait. Adam et Ève n'ont pas été créés avec une connaissance parfaite. Vous comprenez? C'est pour ça que Dieu descendait pour leur parler, pour les enseigner et les instruire. D'accord, monsieur ici? On verra ça la semaine prochaine. Refuse l'instantané au nom de Jésus-Christ. Il y a un processus. Il y a celui qui a travaillé, il y a un processus. Nous allons tous nous lever et dire merci Seigneur pour ta parole. Je prie, Seigneur, que tu ouvres les yeux de mon cœur afin que je vois ce jardin d'Éden. Je reçois ta vision pour ma vie. Je reçois ton plan pour ma vie. Et rien ne pourra m'empêcher de le concrétiser au nom de Jésus. Amen. 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 Que quelqu'un acclame le Seigneur.